Chapitre 29. Le déjeuner. Le lendemain, tous les hôtes de la comtesse reposaient encore, que Bonjus surveillait, dans les cuisines, les apprêts d'un colossal déjeuner. Choisy ne tarda pas à rejoindre son intendant. « Eh bien, demanda-t-il, tu as suivi mes ordres de point en point ?» Bonjus répondit par un signe de tête affirmatif. « Le chevalier a logé, n'est-ce pas, au numéro 13 ?» « Oui. Personne n'est descendu ?»« Personne. »« Bien, songe à présent aux préparatifs dont j'ai parlé. As-tu la chaise de poste ? Vers quelle heure sera-t-elle prête ?»«
À la nuit. »«
D'ici là, je l'espère, j'aurai pu revoir Diane Ouchaville, » murmura Choisy d'un air agité. « Ah, poursuivit-il, n'oublie pas non plus de remettre, dès son lever, ce billet à Louvigny. Il est urgent qu'il soit prévenu. » « Mais notre prisonnier, demanda Bonjus tout effaré, qu'en ferons-nous ? » ?»« Eh, pardieu, Louvigny, après la lecture de ce billet, s'en chargera. Une fois parti, que nous importe le reste. »« Avez-vous encore quelques ordres à me donner ?»« Non, je te charge seulement de veiller à l'arrivée de Chaville. Il ne faut pas qu'il soit vu, mais il faut que je lui parle. » La cloche du déjeuner vint interrompre cette conversation. Les convives de la comtesse prirent place bientôt dans la vaste salle et formèrent un cercle autour de la châtelaine. Le baïf ressemblait à l'un de ces portraits chaudement enluminés des magistrats honorables du XVIIe siècle. Sa perruque, sa barbe et ses manchettes brillaient d'un nouvel éclat. La présidente avait l'air de sortir d'une boîte à poudre. Elle avait mis un soin tout particulier à sa toilette. Deux mouches assassines relevaient l'éclat de son teint. Et à la seule échancrure démesurée de sa robe, il était facile de voir qu'elle comptait encore sur sa beauté. La douce candeur de Mathilde formait avec elle le plus éclatant contraste. Émue et tremblante, la naïve enfant songeait encore à Chaville. Elle était pâle et rêveuse. Deux ruisseaux de larmes avaient dû couler de ses beaux yeux, car elle les tenait alors silencieusement baissés. Pour nos trois gentilshommes, ils paraissaient disposés à se consoler de leur mieux d'un prochain départ en s'inscrivant fort valeureusement à cette table. Tout d'un coup, Choisy remarqua l'absence de deux convives, dont l'un occupait alors trop profondément sa pensée pour qu'il ne se réjouît pas intérieurement de ne pas le voir siéger à sa table. C'étaient messieurs de Luxeuil et Palamède. « Où donc est le chevalier ?» demanda-t-il en jouant l'inquiétude. « Courez vite, Bonjus, et ramenez-le, nous l'attendons. Vous permettrez bien, mesdames, et vous, cher baïf, que je vous présente à la fine fleur de Paris, mon ami Luxeuil, le protégé de Monsieur de Louvois. » « Mais votre neveu, baïf, votre neveu ?» demanda la présidente par contenance. « C'est vrai, qu'est donc devenu Palamède ? Où est-il ? Que peut-il faire ?» « Veuillez l'excuser, madame la comtesse, » ajouta le baïf, « ce garçon-là a toujours le nez sur quelques poèmes. » Le baïf parlait encore quand Choisy, tout d'un coup, réprima un léger cri. Le chevalier de Luxeuil venait d'entrer. La pâleur couvrait le visage de notre abbé, un coup de foudre l'eut moins atterré. Il regarda Luxeuil avec un œil plein de trouble et de surprise. Ce mouvement n'échappa point au chevalier, dont le sourire était triomphant, l'air épanoui et la toilette des plus recherchées. Il s'assit vis-à-vis de la présidente, dont le front se colora à son aspect d'une vive rougeur. Choisy était si désarçonné qu'il oublia de présenter Luxeuil à ses hôtes. « Allons, reprit gaiement le chevalier, je crois bien qu'il faut que je me présente moi-même. « Mesdames, vous voyez en moi un des plus sûrs, un des plus anciens amis de la comtesse des Barres. » Choisy se mordit les lèvres. « J'aurais fait 100 lieues sans débrider, » continua Luxeuil, « pour trouver madame la comtesse. »« Chevalier, » répondit Choisy en reprenant assurance, « je vous suis obligé de cette protestation flatteuse. Mais dites, avez-vous passé une bonne nuit ?» ajouta l'abbé avec un sourire contraint. « Excellente, ma chère comtesse !» répondit Luxeuil en regardant la présidente. « Ainsi, vous n'avez pas eu peur du numéro 13 ?
C'est pourtant un nombre cabalistique.
Nullement, quoique dans mon aventure, il y ait vraiment de la magie.
De la magie, s'écria impatiemment le baïf. Une aventure ? Oh, contez-nous cela, monsieur le chevalier, je raffole des histoires.
Vraiment, vous y tenez, monsieur le baïf, et si vous étiez de moitié dans cette aventure ?
De moitié ? Oh, mais cela doit être fort piquant. De grâce, je suis tout oreille.
Madame la présidente renversa en ce moment une salière avec un de ses sabots en dentelle et lança au chevalier un regard à le faire rentrer sous terre.
J'écoute, reprit le baïf.
Conte-nous cela, s'écrièrent les trois amis de Luxeuil.
Eh bien, non, poursuivit le chevalier, qu'une moue suppliante de madame de Plante-Rose désarma. Je vous dirai la chose à la fin du déjeuner. Il n'y a rien vraiment comme le dessert pour les histoires.
Ces messieurs ont raison. Mais où donc est Palamède ?
Se prit à dire tout d'un coup la présidente. En parlant ainsi, madame de Plante-Rose reportait son regard vers la porte qui s'ouvrit bientôt avec fracas. La compagnie vit entrer un personnage qui tenait plutôt d'une apparition fantastique que d'un homme. Il était en robe de chambre et tenait à la main un bonnet de coton couvert de boue. Son visage était meurtri d'égratignures nombreuses, ses cheveux en désordre et son teint si jaune qu'on eût dit vraiment qu'il relevait de maladie. Son entrée était si brusque et son aspect si grotesque qu'on eût pu raisonnablement le croire traqué par une meute de bassets ou de recors. Il étancha à peine la sueur qui perlait son front et se laissa tomber plutôt qu'il ne s'assit sur un siège.
« Palamède ! » s'écria le baïf d'épée d'un ton lamentable. « Quoi, c'est vous, dans cet état ?»
Mathilde et la présidente avaient tiré chacune leur flacon de sel. On les fit respirer au malheureux Palamède. Pour les trois amis de Choisy, ils éprouvaient alors un étonnement mêlé d'une si invincible envie de rire qu'ils furent obligés de se couvrir la bouche de leurs serviettes.
« Eh bien, qu'est-ce ? Qu'y a-t-il ? »
demanda enfin la comtesse des Barres, la seule qui ne parut point partager la commisération de ces dames pour le neveu du baïf.
« J'allais vous le demander à vous-même, madame, » reprit Palamède d'un air furieux. « Et comment se fait-il quand votre propre château ?»«
Expliquez-vous !»«
Oui, certes, je m'expliquerai, ou plutôt, vous daignerez m'expliquer, madame, comment il se fait que je sois encore en vie. Ces trois gentilshommes venaient de me voir quitter provisoirement l'affreux Niara que votre intendant nomme, je crois, la Tour du Nord. Pour moi, j'étais bien en droit de la nommer alors la Tour du Diable. » Un baldaquin aussi lourd que de cloche venait de tomber sur moi. Le ciel de mon lit avait failli m'écraser quand j'eus l'idée d'entrer au numéro 13.
« Mon numéro, » interrompit Luxeuil, « voilà qui est singulier. »